clôturé. RTL Bonsoir, Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy.
Allez RTL, bonsoir. On accueille maintenant notre invité face à l'événement. L'événement, c'est ce constat d'échec. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions.
Ce proviseur était menacé de mort, menacé depuis une altercation avec une élève fin février. Il avait demandé à cette jeune fille de retirer son voile.
Alors il s'en va pour raison de sécurité. Il a été reçu cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal. Bonsoir Yanis Roder.
Bonsoir.
Vous êtes prof d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. Vous dirigez l'Observatoire de la laïcité à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes auteur ces dernières semaines de préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Le départ de ce proviseur, est-ce que c'est un échec pour l'école, pour l'État? Est-ce que vous avez l'impression, en quelque sorte, que la bêtise a gagné dans cette histoire?
Écoutez, je ne suis pas certain de cela, parce que il faut regarder la chronologie. Cette affaire éclate le 28 février de mémoire.
Ouais, exactement.
Très vite, ça s'emballe sur les réseaux sociaux. Les premières menaces de mort arrivent très vite. Si le proviseur dit aujourd'hui qu'il se met en retrait, je pense que ce n'est pas dû à cet emballement premier sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je n'ai pas d'informations, hein. Mais je pense que il doit y avoir des menaces réelles, puisqu'il en parle, mais qui ne relèvent pas de cet emballement sur les réseaux sociaux. Et je pense que si la hiérarchie, sa hiérarchie et Matignon l'ont reçu et ont accepté cette mise en retrait, qui peut être comprise comme justement une abdication, finalement, un recul en race campagne, je pense qu'il se passe quelque chose. En tout cas, des menaces doivent être très sérieuses.
Mais dans cette affaire, un homme sera jugé pour menace de mort dans 3 semaines. On a le sentiment qu'il y a quand même une forme d'impuissance. On se demande, mais comment on peut protéger les enseignants, les proviseurs face à ces menaces qui se multiplient sur les réseaux?
Oui, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la représentation nationale devra, à un moment donné, se poser la question des réseaux sociaux, et notamment de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Parce que ces emballements qu'on a maintenant régulièrement, et souvenons-nous de ce qui est arrivé à Samuel Paty, cela part d'un emballement sur les réseaux sociaux.
Et on l'entendait dans le reportage au lycée Maurice Ravel, excusez-moi de vous couper, à 18h, ces menaces, elles ont été diffusées sur les réseaux sociaux et quasiment tous les élèves les ont vues dans ce lycée.
Voilà, et donc il y a une ambiance qui s'installe une ambiance délétère qui s'installe, des menaces qui sont faites, des menaces de mort. À un moment donné, il va falloir, je pense, réfléchir, vraiment se poser la question. Ça relève pas de l'éducation nationale, en réalité, les réseaux sociaux. Ça relève de la représentation nationale. À un moment donné, je pense que des responsables politiques devront poser les choses sur la table. Qu'est-ce qu'on fait avec des choses qu'on ne peut pas contrôler, finalement? Parce que, vous dites, un jeune homme de 26 ans va être condamné, un autre de 23 ans également, je crois, combien de menaces de mort pour 2 personnes interpellées et qui vont être jugées?
RTL a eu téléphone aujourd'hui la jeune fille qui avait refusé d'enlever son voile. Elle aussi, elle a quitté le lycée, elle a arrêté l'école, elle est désolée pour le proviseur, elle regrette la tournure des événements. C'est vraiment un constat d'échec pour tout le monde, là, dans cette affaire.
Oui, c'est un constat d'échec pour tout le monde, mais en même temps, moi, je veux bien qu'elle regrette cette jeune fille, mais enfin, on est le 28 février, on n'est pas à la rentrée le 1er septembre, elle sait exactement ce qu'elle fait, et quand elle tourne le dos au proviseur, elle sait exactement ce qu'elle fait, donc je veux bien qu'après, elle vienne dire, oh, je suis désolée pour tout le monde, mais enfin, je crois que là, elle a joué un jeu qui était extrêmement dangereux, et je pense qu'elle l'a joué à dessein.
Vous qui êtes prof, on le rappelle, hein, vous êtes en activité, ces provocations du type venir à l'école avec un voile, parfois on a la sensation que ça arrivait moins souvent en fait quand il y a eu la loi sur les signes religieux en 2004. Est-ce que c'est devenu plus régulier? Est-ce que vous, par exemple, vous en avez été le témoin?
Oui, oui, bien sûr, j'en ai été le témoin, évidemment, et je demande régulièrement à des jeunes gens d'enlever le signe qu'ils portent. Ils le font, sans problème en général. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais effectivement, la loi de 2004 avait apaisé les choses. Et puis, au printemps, hiver-printemps 2022, on a vu arriver ce qu'on a appelé les abayas. Et là, effectivement, en même temps que les abayas, il y a eu un regain d'intérêt pour le voile. C'était pas anodin, hein, on l'a vu dans les signalements, on l'a vu monter. Et donc là, certains, que j'appellerais des entrepreneurs identitaires et religieux, ont vu l'occasion d'essayer de fracturer la loi pour fracturer l'école de la République. Et donc à partir de là, effectivement, on a eu c'est là qu'on a eu des vidéos sur TikTok, etc., qui faisaient des centaines de milliers de vues, des défis qui étaient, défiez votre CPE, défiez votre proviseur, portez ci, portez ça. On l'a vu à ce moment-là.
Il y a eu une brèche.
Oui, il y a eu une brèche qui s'est ouverte. On a mis du temps à réagir parce que le ministre de l'Éducation de l'époque, Monsieur Ndiaye, n'a pas, soit il n'a pas pris la mesure de la chose, soit il ne voulait pas dire les choses. Monsieur Attal est arrivé, hop, il a tapé du poing sur la table, ça a été réglé tout de suite. Au mois de septembre dernier, en 3 semaines, il n'y avait plus d'abaya. C'était réglé. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que ponctuellement, vous avez des jeunes gens ou des jeunes filles qui vont essayer, discrètement, de passer, de remettre un voile, de remettre quelque chose Après avoir passé la grille.
Vous, vous militez pour le dialogue régulier autour de la laïcité en classe. Mais beaucoup de profs ont peur, on le sait, d'entamer ce dialogue, peur des réactions. Je me mets à la place d'un prof qui débute, qui a 23, 24 ans. Est-ce qu'il est assez formé aujourd'hui? Est-ce qu'il a assez d'outils pour aborder ce sujet en face d'une classe de 4e ou de 3e?
Oui, c'est vrai que c'est difficile. Non, je ne jugerai jamais les collègues parce que ça peut être compliqué. On est jeune. Et vous savez comment fonctionne notre système? Quand on est jeune professeur, on n'est pas nommé dans les grands lycées de centre.
En général, non.
Voilà, on est plutôt nommé dans les lycées ou dans les collèges, des espaces qu'on appellera, j'appellerai comme ça, hein, des espaces de relégation sociale, où c'est plus compliqué, bien sûr. Et non, je vous dirais de manière très claire, non, aujourd'hui, les jeunes enseignants ne sont pas assez formés à ces questions, même si depuis 2 ans, depuis que Jean-Michel Blanquer a instauré un oral obligatoire au concours de recrutement des professeurs, ils sont mieux formés que je l'ai été moi. Hein. Mmh. Moi, je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, je ne savais rien sur la laïcité ou presque. Je me suis formé tout seul parce que j'en ai pris un peu plein la figure, donc j'étais un peu obligé de le faire. Aujourd'hui, ils sont un peu mieux formés, mais en même temps, il faut continuer une formation, il faut une formation continue de qualité et vraiment proposer de l'aide pédagogique à ces enseignants.
Emmanuel Macron veut, dès la rentrée prochaine, instaurer 1 heure d'enseignement civique par semaine. Aujourd'hui, c'est 1 demi-heure. C'est pas assez?
Je crois pas que le problème se pose comme ça, en réalité. Je pense que le problème, il est d'abord dans la posture enseignante et dans ce que les enseignants comprennent de leur mission. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'un enseignant, c'est pas seulement un prof de maths, c'est pas seulement un prof de SVT ou un prof d'histoire. C'est aussi quelqu'un qui va faire partager les valeurs et les principes de la République. Il est là pour fabriquer des républicains. C'est le rôle de l'école de la République.
Pas que pendant l'heure d'éducation.
Et pas que pendant l'heure d'enseignement moral et civique. D'autre part, je crois qu'il y a aussi une dimension qu'on n'a pas assez prise en compte. Néanmoins, j'ai entendu les sénateurs qui ont rendu un rapport le 6 mars, en parler. Informer les parents. Quand vous mettez votre enfant à l'école de la République, vous n'êtes pas au supermarché des sensibilités et vous n'allez pas prendre « ça m'intéresse ». Non, vous allez tout prendre et en même temps, vous allez comprendre que on est en train de fabriquer un petit républicain. C'est-à-dire que l'école, elle est là pour fabriquer la citoyenneté de chacun. Ça, les parents, on ne leur dit pas, ou en tout cas, on ne leur dit pas assez.
Vous qui évoquez ces questions avec vos élèves, vous avez vécu en tant que prof en Seine-Saint-Denis le 11 septembre, les attentats de Mohamed Merah, ceux du 13 novembre.
Merci de rappeler que je suis très vieux.
Le 7 octobre.
Et vous dites que vous avez entendu des horreurs, c'est le terme que vous employez. Comment vous désamorcez ces situations? Comment vous arrivez à raisonner ces gamins, quand vous arrivez à les convaincre de l'importance de la laïcité à l'école et dans notre pays, parce que j'imagine que vous avez entendu des choses qui sont abominables quand on les entend.
Oui, et qui sont parfois très dures à entendre, hein, notamment après le 7 octobre. Vous savez, il faut jamais braquer les élèves. Et donc quand vous avez des élèves en face qui vous disent des horreurs, il faut reprendre ces horreurs. Dire, tu viens de dire ça. Je vais écrire ce que tu as dit. Voilà, tu as dit ça. Est-ce que on peut expliquer ensemble ce que tu veux dire? Voilà, de qui tu parles? Hein, je prends un exemple. Voilà, il y avait pas de juifs dans les tours le 11 septembre. Moi j'ai eu ça, hein, le 12 septembre 2001, j'ai eu ça. Hein, il y avait pas de juifs dans les tours. T'es trop fort. On connaît pas le bilan, mais toi tu connais déjà la religion de chacune des victimes. Et donc, on reprend ça, on explique, mais comment tu sais ça? D'où ça sort? Quelles sont tes sources, etc. En fait, c'est un travail de déconstruction auquel vous allez vous atteler. Surtout en ne jugeant pas moralement l'élève, parce que vous avez tous les autres qui vous regardent. Il faut pas braquer ni l'élève ni la classe. Hein, et donc ça, c'est la stratégie pédagogique, en fait, tout simplement. C'est le prof qui vous parle.
Mais ça, c'est enseigné ou c'est vous qui l'improvisez quand ça arrive?
Ça, c'est moi qui l'ai...
Il faut le théoriser.
C'est moi qui l'ai théorisé, mais je l'ai théorisé dans des bouquins. Mais enfin, il y a que ma mère et ma sœur qui
l'élisent. Non, mais dans la formation.
Oui, mais je le dis dans les formations. Je le dis, mais parce qu'il faut, absolument reprendre la parole des élèves, parce que souvent, ils vous balancent des choses comme ça, sans avoir réellement réfléchi au fond de ce qu'ils disent. Et quand vous les faites réfléchir, certains vous disent « Ah ouais, c'est vrai, là j'ai... »
Donc il faut du temps pour réfléchir à l'école. Et vous n'en avez pas forcément. Temps.
Et c'est ça c'est une vraie question. Et là, pour le coup, je l'ai écrit à peu près 12 fois dans mes bouquins. On manque de temps. On manque de temps surtout pour faire réfléchir, pour se poser et pour que le temps de l'école ne soit pas le temps du scrolling ou du zapping. Que ce soit un temps qui nous permette de réfléchir sur des sujets, qui nous permette d'écrire, de réécrire, de se tromper, de progresser, d'émettre des hypothèses, de revenir dessus. On n'a pas ce temps-là. On a des programmes qui sont en l'état actuel, je le dis, je me permets de le dire, infaisable en réalité, si on veut prendre le temps de faire réfléchir et penser nos élèves. Et les faire penser, c'est aussi les faire produire. Si je veux terminer mon programme, je fais rien de tout ça et j'oublie les 9 dizaines de mes élèves en route.
Merci beaucoup Yannis Roder, prof d'histoire géo en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de la laïcité à la Fondation Jean Jaurès. Je rappelle votre dernier bouquin, parce qu'il n'y a pas que votre maman et votre soeur, Yannis Roder, Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été ce soir notre invité face à l'événement dans RTL Bonsoir. L'émission continue avec RTL Inside.
Et RTL a passé la journée dans un salon de coiffure, car les deux tiers des coiffeurs, figurez-vous, présentent des signes d'anxiété. Visiblement, écouter les conversations et les malheurs des clients, c'est pas toujours facile.
Et puis la visioconférence, le menu ce soir, Alex Vizorek.
Il y aura des blagues de gauche ainsi que des blagues de droite, parce que sur RTL, d'où que vous veniez, l'humour, c'est ici.
Et bien sûr. Vous êtes payé ou quoi?
J'ai une prime. J'ai une
bien à payer. À tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy.